France Inter.
Solitude urbaine. Je trouve que c'est parlant parce qu'effectivement, on est tous très nombreux dans la ville, surtout à Paris. Énormément de population, énormément de personnes et on peut quand même se sentir très seul, entouré.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Zoom Zoom Zen dont je vous ouvre les portes en même temps que celle de mon cœur cet après-midi. Un cœur blessé, un cœur trahi. Puisqu'alors que nous allons zoomer sur le concept de solitude urbaine, ce sentiment paradoxal d'être seul alors qu'on est si nombreux en ville, j'aimerais revenir sur l'incident du week-end, incident où, faute grave, les prud'hommes trancheront. Toujours est-il que samedi matin, alors que l'application Se Loger m'envoyait comme chaque jour une sélection des biens qu'il serait intéressant d'acquérir, je décidais de transférer une de ces annonces qui m'avait tapé dans l'œil à Manon Mariani, qui est, vous le savez, en recherche active d'appartement. Une initiative qui, j'imaginais, la toucherait. Eh bien, ça l'a tellement touchée que 3 jours plus tard, mon SMS n'a toujours pas eu de réponse. C'est pourtant marqué lu, elle m'a donc tout simplement laissé en vue. Comme Thomas Pesquet avant elle, la différence c'est que Thomas Pesquet, lui, ne dépend pas hiérarchiquement de moi, et que c'est pas moi qui vais décider s'il repart oui ou non dans l'espace, avec ou sans oxygène. Alors que Manon, oui. Alors pourquoi, comme moi, êtes-vous si nombreux à vous sentir seul au cœur de la ville? Comment se fait-il que la solitude urbaine s'étende alors même que les moyens de communication se multiplient et que les applis de rencontre nous permettent de ne jamais finir la soirée seule? Enfin et surtout, Manon a-t-elle commis, comme dirait Cyril, une erreur stratégique majeure? Zoom Zoom Zen en mode, lavons notre linge sale en public, ouais. C'est parti.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Et bonjour Pauline Machado.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi, même si vous êtes une amie de la Marionneuche. Il faut dire la vérité à nos auditeurs d'emblée, hein, vous
on
la soutenez.
On était ensemble, à l'école.
À l'école, très bien. Pauline, vous êtes journaliste indépendante aujourd'hui et vous êtes l'autrice de « Foule sentimentale, comment la ville impacte l'amour » qui vient d'être publié aux éditions Les Pérégrines. Alors Pauline, je compte sur vous évidemment pour me remonter le moral, vous l'avez compris, moi ça va pas fort. La faute donc à ces êtres ingrats, plus ingrats encore que deux ados à qui on aurait tout donné, tout sacrifié, les plus belles années de sa vie à s'en faire des cheveux blancs. Et qui finissent par vous ghoster. Pire que deux ados, donc deux chroniqueurs. Manon Mariani, Quentin, lui, bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous.
Ça fait deux ans
qu'il ne répond
jamais à n'importe quel texto.
Oui, mais moi je peux, c'est moi le boss.
Ah oui.
Alors Manon,
oui,
on va commencer par vous, on va crever l'abcès. Je sais que l'annonce que je vous ai envoyée était un peu au-dessus de votre budget.
Mais j'ai même pas cliqué pour vous dire.
Vous n'avez pas besoin de 6 chambres. Mais quand même, une petite réponse, un petit lol, même un émoji clin d'œil aurait été de bon ton. Au lieu de ça, vous m'avez laissé en vue comme cet ex qui vous invitait dans des kebabs.
Au karting, mais oui.
Est-ce que je mérite ça, Manon?
Mais non, mais déjà, un, il y avait marqué château dans votre annonce. Et deux, vous me l'envoyez à 9h30 un samedi. Donc autant dire que je dormais.
Lagounette.
Oui.
Bah, le château des brumes en vente à Paris. Très beau château à Montmartre.
Oui, mais t'as des actions.
Budget.
C'est quoi le budget?
Il n'y a pas de budget, c'est prix.
Oui.
Nous consulter.
Voilà.
Donc ça dit tout, quoi.
Manon, heureusement, il y aura tout à l'heure pour vous rattraper votre célèbre veille sanitaire.
Oui, et en scrollant depuis ma terrasse, verre de rosé à la main ce week-end, bah oui, il faisait beau. Je suis tombée sur des influenceuses assez particulières. 3 nièces de la famille Le Pen qui cartonnent sur TikTok, sauf qu'en réalité, ce sont des deepfakes. L'IA est encore une fois au cœur des débats, encore plus avec les élections européennes qui arrivent début juin. On fait un point dans ma veille sanitaire.
Face à vous, Pauline, un autre visage de la déception. Moi qui adore, vous le savez, le team building, qui suis toujours le premier à proposer, à initier des moments privilégiés entre collègues pour se découvrir autrement, en dehors du bureau. J'ai passé le week-end à attendre le SMS qu'on attend tous dans l'équipe depuis maintenant 3 semaines qu'il a lancé l'idée. Le SMS nous annonçant que Quentin aurait enfin réservé notre session karting à la porte de la chapelle. Hélas, il n'est jamais arrivé ce SMS, et pour cause, à trop attendre, à trop tergiverser, pneumix, pneuslick, le circuit de karting de la porte de la chapelle a fermé. Attends, on a pris ce week-end. Bravo, Quentin. Bravo, bravo.
On a trop attendu.
Mais
le mixte. Intermédiaire peut-être.
Oui, intermédiaire. Je connais pas bien les termes comme
là,
vous.
Là, oui.
C'est pas moi, slick, ça existe.
Oui, slick, mais intermédiaire.
Ah oui, intermédiaire, d'accord. Alors, Quentin, pour vous rattraper, j'espère que vous avez un beau micro trottoir.
Oui, surtout que la solitude en ville, je la connais. Je dirais même que les moments de solitude urbaine sont un peu dans mon quotidien, comme cette fois où je cherchais des enfants boomerang. Vous savez, les enfants qui reviennent vivre chez leurs parents.
Ça vous est déjà arrivé?
Bah non, parce que ma mère est morte.
Voilà. Pas de chance.
Désolée.
Bah, moi aussi, je suis désolée. Bah oui, moi aussi, je suis désolée. Alors, suis-je le
pas
seul
de chance. Non,
pas de chance. Pas de chance, bah oui.
Pas de bol, hein.
Suis-je le seul à me sentir seul au milieu de tout le monde? Réponse dans la prochaine demi-heure, un micro-trotte complètement à la rue.
Oui. Vers 16h30, où avez-vous le plus de chances de trouver l'amour? Sur quelle appli? Sur quelle ligne de métro? Plutôt dans un bar ou à la salle de sport? La science a les réponses. Le Zoom Zoom test aussi. En fin d'émission, lui n'est jamais seul puisqu'il est 76 personnages à la fois. Benjamin Tranier viendra conclure cette émission que j'aimerais démarrer par une question très simple, Pauline Machado. Où est-ce qu'on a le plus de chances aujourd'hui aujourd'hui de trouver l'amour? Est-ce que c'est plutôt dans la grande ville dont on va parler? Est-ce que c'est plutôt dans un petit village ou en banlieue?
Ça dépend de votre définition de l'amour, parce que si c'est juste... si c'est juste la rencontre amoureuse, je pense qu'en ville, ce sera beaucoup plus simple. Mmh. Après, si c'est l'amour qu'on fait perdurer, la pérennisation de nos relations, rien n'est moins sûr. Je dirais peut-être la banlieue ou la campagne.
Ça serait mieux. Lui, il a trouvé l'amour dans un lieu où, a priori, on ne s'attend pas à le trouver. Une boucherie-charcuterie de la rue du Château d'Eau. Il est en train de faire du gringue à une belle côte de porc quand soudain, leurs regards se sont croisés. Cyril a vu Denis, Denis a vu Cyril. Depuis, il ne se quitte plus, c'est son boucher. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à Denis.
Cyril, chaque après-midi, vous remontez le fil de notre mot du jour. Alors dites-nous, cette solitude urbaine, d'où ça sort?
Voilà le son de la solitude urbaine.
Vous avez esquissé un mouvement de tête,
oui, vous avez vu,
dansé de la tête, c'est très rare en me concernant.
Oui, je sais. Le son donc de la solitude urbaine, l'emblème de la solitude urbaine, iconique dirait la Marianoche. La série Sex and the City, Carrie Bradshaw et ses trois meilleures copines vivent à New York, la ville qui ne dort jamais, la ville de tous les possibles. Si je peux réussir ici, je peux réussir partout. Liza Minnelli le chante dans New York, c'est en 1977. Eh bien, c'est tout le problème. Comment trouver l'amour dans l'immensité new-yorkaise? Sex and the City est probablement la série qui a le mieux incarné notre sujet du jour, cette solitude urbaine dont vous parlez, Pauline Machado. Carrie, Miranda et Charlotte cherchent l'amour, le grand, le vrai, le prince charmant, celui qu'on leur a vendu quand elles étaient gamines. Samantha, elle cherche surtout à jouir. Et ma foi, de ce côté-là, elle va trouver de quoi faire.
Et c'est justement tout le paradoxe.
Oui. Les villes sont évidemment de grandes pourvoyeuses de sexe à gogo, de relations d'un soir, bref, de plan cul. Mais et l'amour dans tout ça? Où est-ce qu'on le trouve? Dans une métropole. C'est ce que raconte Sex and the City, cette idée qu'on s'est faite, qu'il y a toujours mieux ailleurs, que ça se trouve, l'amour nous attend dans un autre coin de rue que le nôtre, et du coup on ne s'engage pas, on remplace une meuf ou un mec d'un soir par une autre ou par un autre. On s'envoie en l'air, mais on se sent seul, seul dans une grande ville. Étrange paradoxe que raconte notre invité. C'est pour ça que Sex and the City a été un carton, au-delà des chaussures Manolo Blahnik et des robes Vivienne Westwood, le quotidien de très nombreuses jeunes femmes. Alors, est-ce que la ville peut encore être le lieu où l'on trouve l'amour? Est-ce qu'il y a forcément un Mr. Big pour une Carrie Bradshaw? Comment conjuguer l'urbain et l'engagement? Est-ce que c'est plus facile l'amour à la campagne? Ou est-ce que c'est Karine Le Marchand qui a finalement tout compris? Est-ce qu'il faut passer notre amour à la machine et le faire bouillir? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Pauline Machado, est-ce que vous êtes d'accord, New York, la série Sex and the City, c'est la parfaite illustration de cette solitude urbaine dont vous nous parlez dans le livre?
Je trouve que c'est surtout la parfaite illustration du bouillonnement urbain. On est comme dans Sex and the City, elles sont tout le temps en train de courir à 1000 à l'heure. Elles sont sollicitées sur tous les fronts. Elles ont des amitiés très solides et du coup, sur ce plan-là, je trouve ça super intéressant de voir que au cours de notre vie et avec les histoires d'amour, c'est aussi important d'avoir un socle amical. Mais oui, elles sont aussi très seule parmi tout ce monde et c'est un des pans de la série qui est assez fidèle à la vraie vie, je trouve, parce que le reste est complètement idéalisé.
Oui, et mais ce que vous disiez sur l'amitié, c'est intéressant. En ville, l'amitié est facilement plus solide que l'amour.
En tout cas, j'ai l'impression qu'on en a peut-être un peu plus besoin pour survivre dans ce combat et cette frénésie que sont les relations amoureuses en ville ou même la vie en ville, tout simplement. Et du coup, pour braver la solitude urbaine et pour braver un peu le tourbillon de rencontres, on va avoir peut-être plus besoin de nos amitiés.
Il est écrit sur la quatrième de couverture, Pauline Machado vit entre la grande et la très petite ville depuis l'enfance. Alors vous avez pu expérimenter les deux. Quand vous êtes arrivée en ville, vous avez trouvé ça plus difficile d'aimer ou plus facile? Comment ça s'est passé?
Déjà moi j'ai grandi en Haute-Savoie, donc rien à voir avec Paris, et j'avais cette vision très glamourisée de Paris, et quand je suis arrivée avec cette grande idée, donc c'est ce que je dis même, de Paris comme château des contes de fées, c'est là où on va rencontrer l'amour, le prince et tout ça.
Ouh là là. Malheureuse.
Oui, voilà, exactement. Bah, je suis arrivée, c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis rendu compte que ce n'était qu'un conte finalement. Et c'est plus peut-être plus difficile. Enfin, on aime dans les grandes villes comme on aime partout, les sentiments, les émotions, on les ressent pareil. C'est peut-être plus ce qui est du comportement amoureux et voilà, cet enchaînement, on prend, on jette, c'est ça qui est assez difficile.
Mais c'est un problème tout simplement d'offre et de demande. Ouais, en ville, il y a tellement d'offres que finalement, on se dit toujours que c'est bien, mais ça peut peut-être être mieux et donc on s'attache moins, on fait moins d'efforts. Il faut faire des efforts en amour aussi.
C'est exactement ça et c'est ce culte de la rapidité aussi. On sait qu'on peut, c'est exactement ce que vous dites, on sait qu'on peut trouver mieux, on sait qu'on peut enchaîner les rencontres, que ce soit par les applis. Il y a 8600 bars à Paris, donc il y a quand même de quoi faire.
Dont 8570 que Manon connaît personnellement et a essayé. Dans un parc, dans le métro, dans une boucherie, Cupidon peut frapper n'importe où. Et pourtant, le phénomène de la solitude urbaine progresse. On continue d'en parler juste après une première pause musicale dans Zoom Zoom Zen. Cyril était content, il se disait que notre thème du jour justifiait enfin qu'on diffuse les villes de grande solitude de son ami Michel Sardou. Heureusement, je suis intervenu à temps. Voici Summer in the City, The Loving Spoonful sur Inter.
Summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity? The days can't be like the nights in the summer. In the city, in the summer. In the city, cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city.
On dort les uns contre les autres, mais au bout du compte, on est toujours tout seul au monde, chantait Fabienne Thibault, une ex d'ailleurs de Cyril Lacarrière qu'on embrasse. On zoome aujourd'hui sur ce phénomène paradoxal, alors qu'il n'y a jamais eu autant de citadins, la solitude urbaine. Pauline Machado, on vous doit, je le rappelle, Foule sentimentale, comment la ville impacte l'amour, qui vient de paraître aux éditions Les Pérégrines. Dans l'intro du livre, vous écrivez que l'amour en ville a quelque chose de singulier. Alors nous, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on habite en ville depuis trop longtemps, expliquez-nous ce qu'il a de singulier l'amour en ville.
Je trouve que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a quelque chose d'assez combatif à devoir s'aimer en ville. Enfin, moi, je me suis intéressée, non pas aux émotions, mais au comportement amoureux, ce que je disais, et plus principalement aux villes, parce qu'il y a des facteurs qu'on ne retrouve pas ailleurs, comme la densité de population, la surface de la ville. Et puis aussi, c'est à Paris, par exemple, qu'on a le plus de néo-citadins. On va avoir seulement 22% des Parisiens qui, en fait, sont originaires de Paris. Donc tout ça, ça crée vraiment des modes de relations assez particuliers. On va créer du lien, des liens interpersonnels assez, de manière assez singulière, puisqu'on est toujours obligé de découvrir quelqu'un, enfin... très, très souvent. Et donc là-dedans, l'amour en ville a quelque chose de particulier parce que toujours cette idée de pouvoir, d'avoir un champ des possibles énorme et pour réussir à vraiment prendre le temps de rencontrer quelqu'un et à vraiment dédier ce temps, à créer une bulle parmi la foule, c'est plus compliqué qu'ailleurs.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut se laisser porter par le courant de toutes ces rencontres, essayer d'adapter sa vie à à l'offre qu'on a en ville, ou alors il faut essayer de se créer une bulle et s'accrocher dur comme fer au premier ou à la première qu'on rencontre qui nous plaît vraiment?
Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Je pense qu'effectivement, cette idée de bulle, et en tout cas de quand on rencontre quelqu'un qui nous donne un peu envie de poursuivre, d'essayer de dédier du temps à cette rencontre-là. Mais effectivement, on est vite tenté d'enchaîner, quoi.
On est d'accord que ça, quand on parle de la ville, on parle de Paris parce que nous, on y habite, mais ça concerne toutes les villes. Vous avez vécu, je crois, dans plusieurs grandes villes, Paris, New York, Londres. Il n'y a pas de spécificité parisienne. Toutes les grandes villes, on retrouve le même processus amoureux partout.
Alors moi, je me suis intéressée surtout dans grande ville. Le terme exact serait métropole ou en métropole, capitale. Mais j'emploie grande ville et je le précise parce que c'est le langage courant. Effectivement, tout ce qui est anonymat, on va retrouver ça à Lyon, à Strasbourg. Enfin voilà, à partir du moment où on dépasse un certain nombre d'habitants. Mais il y a des spécificités à Paris, surtout sur le point de vue de l'amour, puisque Paris écope d'une glamourisation romantique comme assez importante. Et donc du coup, ça aussi, ça impacte.
Et alors, on parle d'offres incroyables en ville, d'offres amoureuses évidemment. D'où vient ce sentiment étrange, paradoxal, je disais, de solitude urbaine? Puisqu'effectivement, on a l'impression que si on vit en ville, on n'a qu'à descendre au premier bar pour rencontrer des gens. C'est pas si facile que ça, et on ressent une solitude parmi la foule.
Ça, je pense que c'est à cause de l'anonymat. Pourquoi est-ce qu'on se sent pas seul? C'est parce que quand on voit quelqu'un, on a un lien avec cette personne. Si on croise jamais les mêmes personnes, même s'il y a un million, ou en l'occurrence 2 100 000 parisiens qui évoluent autour de nous, si on connaît vraiment personne, on peut se sentir seul au milieu des foules.
Mais aujourd'hui, comment on rencontre des gens dans des grandes villes? Enfin, est-ce que c'est encore possible?
Oui, heureusement. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais en tout cas, d'après les témoignages et les recherches, oui. Mais c'est vrai qu'on a plus recours aux applis de rencontre quand on est dans une grande ville, alors que paradoxalement, c'est là où il y a le plus de lieux pour se rencontrer. et en fait, je pense que c'est parce que à Paris, on a moins de temps déjà à dédier. Non pas qu'on travaille plus, mais on rentre plus tard du travail, on passe plus de temps dans les transports. Et peut-être qu'aussi, dans une grande ville où on fait souvent que se croiser, on a plus de mal à aller rencontrer l'autre ou à aborder l'autre, quoi, que dans une petite ville.
Les gens se parlent plus dans les bars, par exemple?
En tout cas, ils se parlent moins que dans des endroits où on a des lieux QG, où on va avoir le bar où on se retrouve plus, ou en tout cas, on va se parler, mais entre le moment où on se rencontre et le moment où on prend le temps de se connaître, c'est là où la complexité urbaine se joue.
Et vous, est-ce qu'il vous arrive de vous sentir seul au milieu de l'agitation de la ville? Quentin, vous êtes allé dans la rue parler d'une de vos plus précieuses alliées.
Oui, parce que s'il y a bien une personne dans cette équipe qui vit la solitude urbaine au quotidien, c'est bien moi. Pendant que les Noël, les La Carrière, les Mariani sont bien au chaud dans leur chaise de bureau, votre serviteur, lui, arpente les rues à pied ou parfois dans un habitacle vitre teintée.
Bonjour monsieur, je suis Ben et je suis chauffeur de taxi. Et voilà.
Et vous roulez dans Paris?
Je roule tous les jours à Paris.
Alors que le feu passe au rouge, je fais lire à Ben la notion sur laquelle on se penche aujourd'hui.
Solitude urbaine. Il y a une grande différence entre la ville, la grande ville, et le village. Le village, c'est pas trop de monde, mais ils sont soudés quand même. Là, s'il y a quelque chose qui se passe, là, ils sont tous au courant et ça s'entraide. Mais dans la ville comme Paris, non, chacun pour soi. Personnellement, moi, je me sens toujours seul. Même s'il y a des clients qui me parlent et tout, mais c'est rare. Hein.
Pour Ben, derrière son volant, la solitude, même entourée, est bien réelle. Je lui demande s'il observe aussi chez ses clients.
Moi, la plupart des gens sont seuls. Hein, mais j'ai déjà pris la dernière mois un monsieur, là. Je lui dis, bonjour, c'est quoi votre destination? Il me dit, allez-y, vous allez un peu partout, là, comme ça je me balade. Parce que je me sens toujours seul. Et c'est vrai, le pauvre, il se sent tout seul. Mais bon, quand il était avec moi, il ne se sentait pas seul. Hein. Je lui ai fait plaisir. Et je lui ai même proposé de, si il veut, on s'arrête et il boit un café.
Monter à bord d'un taxi sans savoir et sans avoir la destination pour faire passer un peu de temps, la solitude urbaine par excellence, il y a des chances. Je m'arrête au pied du Moulin Rouge, Pigalle, le quartier qui vit jour et nuit. Et c'est ici que cette jeune femme me sourit. Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi vous souriez?
Parce que je vous vois avec un micro, ça me rappelle mon propre métier, parce que je suis journaliste aussi.
Bossez où, vous?
Alors, j'ai bossé dans plusieurs médias, TF1, France 2, maintenant je suis freelance, je fais des petites vidéos sur les réseaux sociaux.
Ok. Et vous êtes avec qui?
Je suis avec mon petit chien qui s'appelle Sony.
Je lui tends la notion qui est notre sujet aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen.
Solitude urbaine.
ça me parle pas mal. Donc je trouve qu'effectivement... Toi aussi, tu te sens seule des fois? Je trouve que c'est parlant parce qu'effectivement, on est tous très nombreux dans la ville, surtout à Paris. Énormément de population, énormément de personnes et on peut quand même se sentir très seul, entouré.
Seul avec du monde autour, écrivait Aurel San en 2021 dans son album Civilisation. Alors nous parlons aussi de la solitude amoureuse, la ville sans rencontre.
Même avec mes copains, on a pu en discuter ensemble et tout ça. Il y a maintenant une disparition de la drague dans la rue ou même dans la vie tout simplement. Maintenant c'est beaucoup sur les applications, etc. Maintenant les garçons se disent au moins sur les applis, on sait qu'on est là pour ça, la fille est ok, il n'y aura pas de problème avec ça quoi.
Elle me dit que l'ère post-MeToo, indispensable pour la sécurité des femmes, a peut-être aussi fait peur au point de ne plus oser s'aborder. Pour elle c'est différent, elle est en couple mais c'est compliqué.
Moi c'est un entre-deux je pense, comme beaucoup de couples aujourd'hui qui ont peut-être un petit peu peur de se séparer et de se reconfronter au célibat, qui n'est pas un monde facile non plus. C'est très dur à arrêter parce qu'effectivement on n'a pas envie de retrouver cette solitude à nouveau. Donc je pense qu'aussi, il y a une certaine peur de quitter quelque chose quand on est en couple.
Finalement, en cherchant à repousser la solitude, on arrive à la retrouver même dans un couple. Dernière rencontre, cette petite dame dont le maquillage cache quelques rides au coin des yeux. Comment s'appelle-t-elle ?
Denise.
Denise, vous avez quel âge ?
84 ans.
Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, là ?
Ça vous intéresse vraiment ?
Oui.
Alors, j'ai une permanence à la mairie et voilà, je reçois des gens qui sont en difficulté ou qui ont des problèmes, je fais ça bénévolement.
Une retraitée active donc qui se prête au jeu du micro-trottoir de Zoom Zoom Zen.
Solitude urbaine.
De qui on parle ?
Oh, je peux pas vous dire comme ça, c'est les gens qu'on rencontre, qu'on ne connaît pas, dont on voit bien qu'ils sont seuls, c'est... La petite vieille qui achète ses deux poireaux, qui rentre, dont on imagine la vie vraiment pas marrante, quoi. C'est tout.
Et les jeunes ?
Mais les jeunes, pareil, je crois qu'ils sont seuls, ensemble. On est de plus en plus connectés, ce qui ne veut rien dire, et face à soi-même. Les temps changent, moi ça m'emmerde, c'est sûr. Je vis pas comme ça, j'ai pas vécu comme ça. Mais c'est une façon de vivre, voilà.
Derrière le volant d'un taxi, en discutant avec ses amis au cœur de la trentaine, des anciens solitaires aux jeunes qui sont ensemble mais sans l'être, difficile d'ignorer le phénomène de la solitude urbaine.
On zoome donc sur cette solitude urbaine avec vous, Pauline Machado. Je rappelle votre livre « Foule sentimentale, comment la ville impacte l'amour ». On l'a entendu dans le micro-trottoir, ça n'impacte pas que l'amour avec un grand A, ça impacte beaucoup de relations sociales. Et c'est vrai que quand on pense aux solidarités peut-être en région ou dans des villages, dans des villes plus petites en tout cas, elle est beaucoup plus grande que dans les métropoles. C'est sûr que là, avec l'anonymat, ça n'aide pas.
Oui, c'est sûr. Après, je pense qu'il faut nuancer un petit peu. Déjà, là, tous les témoignages qu'on vient d'entendre, c'est vrai qu'il y en a qui... mal au cœur. Après, la solitude, elle n'est pas forcément triste, elle n'est pas forcément subie. On peut aussi...
On peut bien la vivre.
Exactement. On peut aussi choisir d'être seul. C'est le sociologue Georges Simmel qui parle d'attitude de réserve ou de caractère blasé des citadins en disant que c'est aussi une façon de s'extraire des sursollicitations. Et quand on est à la campagne, le fait de se connaître tous, c'est pas forcément source de liens forts et bienveillants, quoi.
C'est peut-être pour ça qu'il y a aussi une plus grande pression sociale à la campagne, entre guillemets, pour se mettre en couple, pour s'installer, qui existe moins peut-être dans les grandes villes.
Oui, exactement. On arrive peut-être un peu plus, enfin en tout cas autour des normes comme ça du couple, de l'injonction au couple, on arrive peut-être plus à s'en défaire quand on habite dans un environnement qui est plus anonyme.
Quentin.
Denise, qui nous parle des jeunes qui sont ensemble mais sans l'être, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que le smartphone isole ? Vous parliez des bars tout à l'heure, est-ce qu'on parle moins aux gens dans les bars parce qu'on est sur notre portable ?
Je pense pas que ce soit aussi caricatural. Je pense qu'effectivement, on va se dire... c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Les jeunes générations sont beaucoup sur les téléphones et tout ça. Nous, on continue quand même de créer des liens, d'être ensemble. Enfin voilà, on a d'autres codes qui sont une utilisation des interfaces numériques qui est quand même plus présente que sur les générations précédentes. Mais c'est vrai qu'il y a une ubérisation de l'amour. On voit le fait qu'on se rencontre beaucoup sur les applis. Il y a de très bonnes choses à ça. Il y a 11% des couples parisiens qui se sont rencontrés en ligne, donc c'est quand même chouette. Mais on va aussi développer des réflexes comme on a besoin d'avoir tout de suite, on a besoin de faire des rencontres qui tout de suite matchent, et c'est pas toujours le cas.
Manon.
Est-ce que cette solitude, elle n'est pas exacerbée aussi selon notre âge? J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de la génération, on va dire, post-30 ans. À 20 ans, on sort, on fait nos études, on rencontre quand même toujours des gens. J'ai l'impression qu'on est un peu sollicité par tous nos cercles sociaux, et qu'après, les taux se resserrent, si je peux me permettre.
Une belle vision de la vie.
Mais non, vous avez compris ce que je voulais dire.
Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi un phénomène qui a été observé chez la génération Z, qui est le fait que, à cause peut-être de la pandémie et des confinements, la création de liens est plus compliquée. Donc, ces générations-là qui ont peut-être un peu moins l'habitude de se rencontrer dans des bars, ou qui vont moins sortir en boîte et tout, aussi à cause des réseaux sociaux, parce que peur de finir sur les réseaux, en soirée et tout, vont expérimenter une solitude que nos générations à nous expérimentaient moins.
Vous Quentin. Disiez 11% à Paris qui se sont rencontrés sur une application. Mmh. Combien l'assument?
Il n'y a pas d'études là-dessus, Quentin.
Il n'y a pas d'études sur ceux qui
on sait que c'est un peu tabou d'avouer qu'on s'est rencontrés.
Mais est-ce que c'est encore tabou?
Ouais, je pense pas. Hein. J'ai pas l'impression.
Moi, je rencontre des gens qui le cachent.
Ah oui? Et vous savez qu'ils le cachent? Comment vous savez qu'ils mentent?
Parce qu'ils me le disent après, mais au début, ils le cachent un peu.
J'ai l'impression que c'est de moins en moins tabou quand même. Ouais. Ça devient assez banalisé. Puis c'est même un jeu. En soirée, on va swiper sur le Tinder ou le Bumble de ses copines. Ouais. Enfin, c'est plus et c'est plus uniquement réservé aux rencontres sexuelles. Enfin, c'est on peut.
Les gens assument plus de vouloir rencontrer l'amour via les applis.
Oui. Ouais, j'ai l'impression.
La solitude urbaine est-elle plus douloureuse que la solitude de l'animateur à qui une collègue refuse de répondre? On continue de zoomer sur ce phénomène avec notre invitée Pauline Machado, amie célibataire qui nous écoutait, ou d'ailleurs personne en couple, pas trop à cheval sur la fidélité. Le Zoom Zoom Test sera source de nombreux enseignements. Quelles applis de rencontre marchent le mieux? Où avez-vous le plus de chances de rencontrer l'amour? On vous dit tout ça juste après Dreamy Skies des Rolling Stones. Well, I got to take a break from it all, 'cause the wind and the wilderness call, and I just need some peace from the storms. I got to take a break from it all, and I got to take a break for a while. Well, there ain't another human for 100 miles. I hate being enclosed by the walls, and I got to take a break from it all. I'll be dancing on diamonds, I'll be skating on glass, I'll be chopping up wood. Just plays Hank Williams and some bad honky tonk, 'cause I got to take a break from it all. And I got to break away from it all, for the city sprawl, and the small town chatter and the know-it-alls, to a place where no one can call, and I won't hear the sirens or the maddening crowds, just the bark of a fox and the hoot of an owl. I ain't got no connection, so a satellite phone, I'm avoiding the pictures and the people back home, and I just got to break free from it all. You see, it can't last forever, I'll be diving back in. It's good for my soul, yes, it's saving my skin, 'cause I love the laughter, the women, the wine,
I just got to break free from it all.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Alors qu'on zoome aujourd'hui sur le phénomène de la solitude urbaine, après le diagnostic, il est temps de se pencher sur le traitement. À l'époque où elle était encore célibataire, Manon avait opté pour Bumble, en doublant ses chances en s'inscrivant aussi en parallèle sur le site Droit au cœur, avec le pseudo-afficheur de Carole Buisson. Allez voir que les applis ne sont pas forcément le chemin le plus court pour rencontrer l'amour. Jouons au Zoom Zoom Test. À la découverte cet après-midi des lieux les plus propices aux rencontres amoureuses. Une étude scientifique récente s'est en effet penchée sur la question « Où a-t-on le plus de chances de rencontrer l'amour ?» Et les résultats sont étonnants. Moi, en me basant sur mon expérience personnelle, j'aurais dit évidemment que le lieu idéal pour rencontrer l'amour, c'était la bibliothèque. C'est en effet là que j'ai rencontré la future Madame Noël. Elle lisait Proust, moi Mallarmé. Je lui ai demandé si ça lui dirait qu'on a discuté des limites de l'œuvre de la Boétie devant un thé au jasmin. Un an plus tard, je lui passais la bague au doigt et nous fermions les rideaux. Voilà.
C'était déjà chiant.
Voilà, c'était déjà chiant dès les premiers mois. Voilà comment les choses se sont passées et voilà comment les choses devraient toujours se passer dans une France chrétienne qui n'aura pas été gangrénée par le vice des applis de rencontre. Eh bien, croyez-le ou non, d'après cette étude scientifique, en 2024, ce n'est plus du tout à la bibliothèque que les gens se rencontrent. D'après vous,
étonnant.
Où a-t-on le plus de chances de trouver l'amour ? Dans un parc ? Dans un bar ? Ou dans une salle de sport ?
C'est salle de sport.
Non, peut-être pas.
Si, je suis sûre.
Attends, un parc.
Etienne Bertin, il a un train 17h, Bertin, il veut pas qu'on soit en retard aujourd'hui. Ils sont fous là.
C'est intéressant.
Il a entendu la bonne réponse, plus de suspense, plus de signes, hop, on y va.
Il se trouve que je joue aussi.
Oui, non, Quentin est éliminé. Bonne réponse, Manon. Effectivement, selon une étude forcément éminemment sérieuse, puisque publiée sur le site parismatch.be, l'endroit où vous avez statistiquement le plus de chances de trouver l'amour, c'est la salle de sport. Oubliez les mojitos en terrasse, ça c'est bon pour les coups d'un soir. Si vous cherchez l'amour avec un grand A, sachez qu'il est certainement à la salle de sport en train de pousser de la fonte. Et là, vous avez encore plus de chances de le rencontrer, c'est en vous inscrivant à un cours collectif. Et ça paraît assez évident. Imaginez, vous vous inscrivez à un cours de cycling, par exemple. Déjà, vous êtes fagoté comme Quentin la fois où il avait testé le vélo sur piste, la vidéo dite de la mini-bûche. Donc, vous vous sentez forcément au top de votre séduction. Et là, sur le vélo devant vous, quand les lumières se rallument à la fin de la séance, vous apercevez la Marianoche, dégoulinante comme après une partie de Scrabble un 15 août, qui vous dit en soupirant.
En fait, j'ai envie de crever sous un camion. Je suis au bout de ma life.
Ça, c'était après votre premier cours, Manon.
Ça n'a pas changé. Ouais,
alors, ça paraît fou, et pourtant, c'est bien la salle de sport qu'on trouve l'amour. Cyril vient d'ailleurs de se réinscrire au cours de CrossFit après cette information. Mais attention, top.
C'est vrai. Il court maintenant.
Comme chaque matin, pour aller au travail ou si vous visitez Paris à l'occasion d'un week-end, vous prenez le métro, ce formidable petit train souterrain au senteur si pittoresque qu'après toutes ces années, je connais comme ma poche.
C'est ça, ouais.
Eh bien, sachez que lui aussi a fait l'objet d'une étude très sérieuse pour savoir sur quelle ligne vous avez le plus de chances de croiser l'âme sœur. D'après vous, la ligne sur laquelle vous avez le plus de chances d'avoir un crush sur Apple, une appli dont j'ai entendu parler.
Oui.
La ligne 1 reliant la Défense au château de Vincennes, la ligne 14 reliant Olympiade à la mairie de Saint-Ouen, ou la ligne 11 entre Châtelet et la mairie des Lilas.
B. La 1, c'est B. La plus longue, B. Ça serait logique.
14. C'est la plus longue et c'est une fois de plus une bonne réponse de Manon. La ligne la plus propice au crush, c'est la ligne 1 du métro parisien avec, selon une étude de l'appli Apple, donc 31% de chances de crusher. C'est seulement 18% sur la 14. Aucun intérêt en revanche de voyager sur la 7 bis où vos chances de croiser un profil intéressant ne sont que de 3%. C'est pour ça que personnellement, je ne prends jamais la 7 bis.
Il n'y a pas de voyageurs sur cette
C'est peut-être pour ça. Attention, top, il n'y a pas que des lieux de rencontre étonnante, il y a aussi des circonstances de rencontres étonnantes. Quand vous tapez star rencontre insolite sur internet, la première réponse c'est évidemment 2014, François Civil, Manon Mariani, Cour Florent. En deuxième position, Google vous propose 2011, Kate Winslet, Ned Rock'n'Roll, Necker Island. Alors on sait tous comment réagit Kate Winslet dans des situations d'urgence. Elle a tendance à sacrifier son amoureux pour se sauver elle en prenant toute la place sur la planche. Eh bien figurez-vous que dans la vraie vie aussi, la panique influe considérablement sur la vie amoureuse de Kate Winslet. D'après vous, que s'est-il donc passé une nuit de 2011 sur l'île privée de Necker Island où la célèbre actrice était en vacances avec son mari et ses enfants ? Il y a eu un incendie et dans la panique, Kate a planté son mari et ses enfants pour fuir avec le seul type de l'île qui avait une lampe frontale. Il y a eu un incendie et dans la panique, Kate a planté son mari pour fuir avec le seul type de l'île qui avait une lampe frontale, mais comme c'est une bonne maman, elle a quand même embarqué ses enfants avec elle. Ou il y a eu un tsunami et elle a planté son mari et ses enfants pour fuir avec le seul type qui avait un hélicoptère.
B.
C, ce serait exceptionnel. Je vais dire C.
Vous aimez... vous aimeriez que Kate Winslet ait fait quelque chose d'atroce à ce point-là? Elle est beaucoup trop sympa. C'est la réponse B. Ouais.
Ah.
Et oui, s'il avait mieux regardé Titanic, son mari aurait dû savoir que Kate Winslet gère mal les situations de stress.
Coup, son mec, mais son
alors,
mec.
En effet, alors qu'elle était en vacances en famille sur cette île privée, l'île de Richard Branson, le séjour a viré au cauchemar quand un énorme incendie s'est déclaré. Dans le chaos général, Ned Rock'n'Roll, qui est le neveu de Richard Branson, était le seul type à avoir une lampe frontale et des chaussures. Ni une ni deux, j'ai pris mon soutien-gorge, nos passeports et mes enfants et je l'ai épousé. Je me suis dit, je vais partir avec le gars qui a la lampe torche, raconte Kate Winslet, qui a donc vécu un coup de foudre au sens propre du terme, puisque c'était la foudre qui avait mis le feu à la maison de Branson. Victoire, mais alors vraiment
écrasante
de Manon Mariani. Un quiz sur l'amour.
Oui,
forcément.
C'est plus facile parce que je ne joue même pas.
C'était sexy. Vous savez que
Bertin,
le réalisateur, ne vous a pas laissé l'opportunité de vous exprimer. La solitude urbaine est-elle une fatalité? Comment la conjurer, Pauline Machado? Je rappelle votre livre, Foule sentimentale. Comment la ville impacte l'amour? Est-ce qu'il n'y a pas en ville un problème de surcharge sociale? On est tellement, vous le disiez, on est sollicité, pas seulement amoureusement d'ailleurs, on est sollicité de tous côtés. À un moment, certaines personnes se replient sur elles-mêmes.
Oui, c'est vrai. Et je pense que c'est pour ça aussi, ça joue aussi sur la solitude. D'ailleurs, il y a 93% des Français qui estiment qu'on peut se sentir seul en ville. Et je pense que ce phénomène de surcharge sociale y est pour beaucoup. Et c'est pour ça que l'anonymat, parfois, peut être un peu salvateur. C'est l'anthropologue Colette Pétonnet qui parle de pellicule protectrice, de l'anonymat comme d'une pellicule protectrice. Mmh. Et c'est vrai que ça nous permet un peu de se protéger du reste, quoi.
Et il y a aussi quelque chose de fascinant, des étiquettes qui collent encore en 2024. Dans un chapitre de votre livre, il est question de la périphérie des villes, et notamment de la périphérie parisienne. Les personnes que vous avez rencontrées parlent d'un monde qui sépare Paris et sa banlieue, et ça compte aussi dans la recherche amoureuse. Je cite ce que vous dit Sarah. « Quand j'ai eu mon premier contact avec Paris, clairement, il n'y avait pas de place ni pour l'amour, ni pour l'amitié, parce que j'étais carrément catégorisée. » Il y a une sorte de ségrégation encore, quelque part, même invisible.
Ah bah oui, enfin en tout cas, c'est ce que les personnes concernées... ressentent. Elles se sentent tout de suite étiquetées. Et puis, elle racontait aussi que les Parisiens ne connaissent absolument rien à la banlieue. Enfin, et elles mettent dans le même panier, d'ailleurs, les Parisiens d'adoption ou les Parisiens natifs, puisque je pense que les provinciaux, c'est la même chose. On arrive à Paris et on ne connaît rien des périphéries, alors que Sarah et les personnes que j'ai interrogées me disaient elles-mêmes, alors que nous, on connaît Paris, on connaît les banlieues, enfin voilà. Et il y a un sondage qui est assez éloquent à ce sujet, qui a été fait par l'IFOP, et qui dit qu'une Parisienne sur trois ne pourrait pas sortir avec un habitant de Seine-Saint-Denis.
Ah oui, carrément, ça va jusque-là.
Assumé, quoi.
Votre livre parle de la ville et de la solitude. J'aimerais qu'on prenne aussi l'exemple qu'on a eu tout à l'heure avec le chauffeur de taxi qui nommait un de ses clients qui ne savait pas où aller, qui n'avait pas de destination, allez y rouler et ça va me faire passer un peu de temps. La solitude, elle est partout. Il y a une errance de la solitude qu'on traîne derrière soi.
Oui, je pense. Oui, j'ai l'impression. Alors après, moi, les personnes qui m'en ont parlé étaient un peu plus ambivalentes dans cette solitude. C'était à la fois quelque chose de, qui était lourd et pesant pour eux et à la fois quelque chose qu'ils arrivaient à chérir, mais encore une fois, c'est pas évident. Et dans le cas de ce client de taxi, c'est assez dramatique, quoi, parce que comment faire quand on s'en cite seul en ville pour créer du lien avec quelqu'un qu'on connaît pas du tout et qu'on recroisera peut-être jamais. Donc,
est-ce que, selon les témoignages que vous avez eus, c'est plus difficile pour les hommes ou pour les femmes ou pour les deux? Est-ce qu'il y a une différence entre les sexes
au niveau de l'amour? En tout cas, les pressions sociales sont pas les mêmes et les attentes du coup diffèrent aussi. Les femmes, elles vont être élevées dans cette idée que la réussite se passe par le fait de faire couple ou de faire famille. Les hommes, si je caricature vraiment dans une société patriarcale, les hommes, ça va plus passer par la réussite professionnelle. Il faut être un homme de famille, un bon père de famille, mais c'est statutaire, c'est postural, ça va être moins dans l'idée d'entretenir le couple, Donc il y a cette espèce de norme là, ce schéma là, et donc du coup, même si on s'en affranchit de plus en plus, heureusement, ça va créer des attentes différentes. Donc les femmes vont être un peu plus dans une passivité aussi. alimentée par les comédies romantiques et par les contes de fées, d'attendre d'être choisie plutôt que dans une idée de proactivité. Quoi.
Elle bouge cette image. Hein.
Heureusement,
on était
bien sûr.
Bridget Jones il y a quelques années, on est passé à la célibatante, enfin, quand même, qui qui tire profit de la situation du célibat en ville. Pourquoi ça vous fait rire maintenant?
Le mot célibatante, il est un peu ringard.
Il est ringard, mais moi je l'ai découvert avant-hier, alors vous êtes gentil.
On va faire une émission, c'est un nouveau mot.
Ça, c'est une bonne idée. On fera une émission vintage. Non, mais ça évolue quand même, ça aussi.
Mais bien sûr, ça évolue. Heureusement, c'est ce que je disais, on s'en affranchit, etc. Mais bon, voilà, ça a quand même la dent dure. Et vous citez ce terme de célibatant, très sérieusement. Mais c'est vrai que les archétypes dans les comédies romantiques sont passés de Bridget Jones, comme vous le disiez, célibataire un peu loseuse, à la célibataire cool, où c'est plus vraiment un fardeau, où voilà, on a envie de trouver l'amour, et effectivement, parce que c'est quelque chose, on a envie de trouver l'amour, c'est quelque chose d'important pour soi et tout ça, mais c'est plus le seul pilier dont on a besoin pour être heureuse, et encore une fois on en revient aux amitiés qui sont super importantes, et de plus en plus là, donc célibataire cool, et de plus en plus là on tend vers un autre archétype qui est certes on a envie de rencontrer quelqu'un, mais dans les comédies romantiques j'entends toujours, mais ça devient une cerise sur le gâteau, c'est plus, on est dans la ville, on évolue avec plein de relations qui nous comblent, un travail qui nous épanouit, voilà.
Tout ne tourne pas autour de ça.
Exactement, et on s'éloigne des injonctions.
Mais ça c'est le versant positif qu'on peut retenir de la solitude urbaine, c'est qu'elle nous permet peut-être de devenir plus nous-mêmes qu'on l'aurait été dans un autre environnement où on a plus d'injonctions à épouser telle ou telle personne à tel âge, procréer à tel âge. Là, on est plus libre peut-être en vie.
Oui, exactement. Et on est libéré aussi un peu de la réputation, de sa réputation qu'on peut avoir dans des villages ou même en banlieue, de ce phénomène-là qui fait qu'on est toujours attaché à notre passé ou d'une certaine façon dont les autres nous voient. L'anonymat fait qu'on est plus libre d'être soi et de l'être en paix.
Et c'est quoi l'aboutissement de la réflexion des gens que vous avez rencontrés sur la notion centrale de la solitude urbaine qui est liée au fait que, on en a parlé tout à l'heure, l'offre gargantuesque en ville qui fait qu'on peut toujours, on se dit en tout cas, peut-être faussement, qu'on peut toujours trouver mieux que la personne avec qui on est ou qu'on fréquente à un moment M. Est-ce que les gens y réfléchissent à ça? Est-ce qu'on trouve une solution? Est-ce que certains trouvent une solution?
En tout cas, la conclusion, c'est un peu trop de choix tue le choix, quoi. On sent que il y a une envie de prendre plus de temps, en tout cas dans les rencontres.
C'est la nouvelle tendance.
Tout à fait.
Plus de temps pour faire vivre la rencontre. Tout à fait. Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Dans quelques instants, pas de solitude urbaine qui tienne du côté de Coulommiers. Benjamin Tranier va nous rejoindre, mais d'abord je vérifie, non ? Toujours pas de réponse à mon message de l'annonce immobilière, c'est pas grave, j'encaisse stoïquement, mais pour l'année prochaine, comment on fait alors ?
On se voit depuis ce matin, ça va.
Oui, mais vous n'avez toujours pas répondu, vous auriez pu me faire un petit message.
Mettrez un pouce.
Vous irez chez Nagui l'année prochaine, on verra dans la bande originale.
Non, c'est moi, on va tous y aller.
Ben vous irez tous les deux, voilà ce qui va se passer si vous continuez sur cette pente-là, cette pente savonneuse. Alors, je vous pardonne Manon, d'autant qu'il s'en est passé de belles sur les réseaux ce week-end, notamment de drôles d'influenceuses qui ont fait le buzz.
Elles s'appellent Amandine, Léna et Chloé, elles sont suivies par des dizaines de milliers de personnes sur TikTok, et elles ont un point commun, elles font partie de la famille Le Pen. Deux se présentent comme les nièces de Marine Le Pen et l'autre comme la sœur de Marion Maréchal. Physiquement, la ressemblance est troublante, longue chevelure blonde, traits de visage similaires, et sur le plan des idées, c'est pareil. Les jeunes Le Pen prônent les valeurs du RN dans leurs vidéos, avec des drapeaux français mis un peu partout et des messages sans équivoque. Je vous en lis un écrit par Chloé Le Pen. Quand tu te balades à Paris et que tu vois plus de voiles que de baguettes de pain. Sauf que ces jeunes femmes n'existent pas, car ce sont en réalité des deepfakes, hein, des images créées de toutes pièces à l'aide de l'intelligence artificielle. Ce week-end sur X, leurs vidéos ont été partagées par plusieurs comptes qui ont démasqué cette arnaque. Personnellement, quand je suis tombée dessus, j'ai d'abord cru quand même que c'était de vraies personnes. Puis, les médias se sont emparés du dossier et ont eux aussi dénoncé ces fake influenceuses d'extrême droite. Depuis, leurs comptes sont introuvables. TikTok les a manifestement supprimés.
Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, Manon.
Oui, mais bon, ça a quand même été long, car l'application a attendu que ces vidéos fassent du bruit avant de les supprimer. Alors que ça faisait quand même plusieurs semaines que les comptes en question existaient. Ça en dit long sur son implication concernant cette technologie. Je précise que selon les conditions d'utilisation de l'application, les deepfakes politiques sont notamment normalement interdits. TikTok a durci ses règles en vue des élections présidentielles américaines qui ont lieu en novembre prochain pour éviter la désinformation. Mais chez nous, c'est pareil. Il faut être très vigilant car les élections européennes arrivent début juin. C'est pour ça que les deepfakes des jeunes Le Pen ont autant d'importance. Car en plus de propager l'idéologie du RN, elles sont surtout là pour soutenir le candidat aux élections européennes, Jordan Bardella. Le choix de le faire sur TikTok n'est d'ailleurs pas anodin, car Jordan Bardella est l'un des politiques qui maîtrise le plus les codes de l'application aujourd'hui. Il est suivi par plus d'un million de personnes et il fait partie de cette génération de politiques ultra connectés qui sait faire de la communication sur les réseaux sociaux. Il a d'ailleurs parlé des deepfakes ce week-end en disant qu'il fallait réfléchir à une législation pour les encadrer. Le timing est plutôt bien calculé de sa part, car ça le dédouane d'une certaine manière d'avoir quelque chose à voir de près ou de loin avec les faux comptes des jeunes Le Pen.
Et on sait qui a créé ces comptes de deepfake ?
Alors non, le président du RN a assuré qu'il n'avait rien à voir là-dedans. BFM a réussi à contacter l'un des auteurs ce matin qui s'est défendu en disant, je cite, « Ça n'avait rien de politique, voyez cela comme une expérience sociale pour démontrer les dangers de la désinformation et des deepfakes. »
Ah, bon, c'était ça.
Une justification tout de même un peu bancale, disons-le, car la plupart des gens ont cru à ces deepfakes et le mal est donc fait.
Et dites-moi, ça relance évidemment le débat sur l'IA.
Exactement, d'autant qu'on a eu un autre exemple ce week-end. Cette fois, ça concerne la candidate pour la liste écologie au centre, Juliette de Caussan. Elle a dévoilé son affiche de campagne sur les réseaux et, oh surprise, son visage n'est plus du tout le même. Il apparaît beaucoup plus fin, son sourire plus bright, sa peau plus lisse et sa poitrine a triplé de volume. Une photo générée à l'aide d'une IA, mais directement par la candidate. D'ailleurs, elle l'assume puisqu'elle dit qu'elle l'a fait pour faire connaître sa liste. Résultat, son affiche a été partagée des centaines de fois sur X pour se moquer d'elle, certes, mais elle a quand même réussi son objectif, faire parler d'elle. Le point commun entre ces deux histoires, c'est qu'encore une fois, ce sont les femmes qui sont au centre de ces deepfakes. Le but est d'attirer le public avec un joli physique et une hypersexualisation des corps. Avec de fausses influenceuses RN qui surfent sur le sexisme ambiant décomplexé sur les réseaux pour faire des vues, comme avec Juliette de Caussan qui utilise une méthode plus pernicieuse car ça vient d'elle-même. Elle se sexualise elle-même pour gagner en notoriété et c'est quand même assez triste d'en arriver là. Dans une époque et dans un contexte où l'IA prend de plus en plus de place, il faut que les politiques fassent très attention à l'utilisation qu'ils en font et surtout au message que ça véhicule. Il va falloir rester très vigilant ces prochaines semaines.
Mais je compte rester très très vigilant. Merci Manon pour cette belle chronique. Allez, j'accepte de passer l'éponge sur cette triste histoire de message laissé en vue.
Merci.
Et je vous offre même un petit cadeau. Un love coach tendance incel qui s'est fixé la belle mission d'aider les hommes à draguer en ces temps post-MeToo si difficile pour eux. Benjamin Tranier arrive avec un nouveau personnage, juste après Jewel Hussein, nouvel export sur Inter.
Hey, à mon avis, si c'est corsé, c'est qu'on se rapproche de la vision. À mon avis, si c'est force, c'est qu'on amorce de la fiction. À mon avis, hey, on tient la pépite sur le prochain export. À mon avis, hey, mes refs vont bientôt traîner avec un ex pauvre. À mon avis, si c'est corsé, c'est qu'on se rapproche de la vision. À mon avis, si c'est force, c'est que ton amant, c'est de la fiction. À mon avis, nouvelle pépite, nouvelle ex pauvre. Tous mes refs vont traîner en ville avec un ex pauvre. Tranquille, hey, on fait pas un nouveau deal avec une big teuf. Je connais des refs qui comptent encore en grec. Je connais des meufs qui comptent en week 9. Qu'il pleuve si les têtes noches app sans modestie font que parler mais ce qu'ils peuvent. Y'a beaucoup de docteurs mais beaucoup non app. Tout ce que l'on prescrit, on lance des pogos de steel punk. Ils le font pour le pif, ne pour que ça découpe. J'écoute des artistes sous côté, le reste me dégoûte. Hey, j'ai compris, on est ce qu'on mange. Peut-être qu'on est devenu ce qu'on écoute. Je fouette les vampires comme Belmont. À mon enterrement, y'aura des vautours tristes avec de belles montres. Si tu n'oublies aucun visage, c'est que tu ne connais pas assez de monde. À mon avis, si c'est corsé, c'est qu'on se rapproche de la vision. À mon avis, si c'est force, c'est que ton amour, c'est de l'affection. À mon avis, nouvelle pépite, nouvelle expat. Tous mes rêves vont traîner en ville avec un expat. J'ai le rap qui fait checker avec la collade. Rarement danser comme Chacola.
Attends deux secondes. C'est qui?
La crise en fit et je me rappelle qu'on a déjà collab. Fuck frère, ils vont m'aduler. Quand ils pigeront qu'il faut faire un classement des mecs qui restent dans la durée. Dingue, dingue comme tu joues avec le feu. Rappelle-moi seulement si tu veux te brûler. Les ailes.
Les ailes.
Elle m'a dit qu'il ne se passerait que dalle, seulement je suis chez elle.
Chez elle.
J'y suis.
Ah oui.
On devrait simplement ken, on se correspond à mon avis. T'as les cheveux noirs comme ma vie. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu le soleil.
Soleil.
Je me sens tous les jours comme si le rap m'avait volé 10 ans sommeil. J'aime pas faire ma propre promo, mais bon, j'ai pas vraiment le choix. Je m'aligne. Je vous aurais bien dit de surveiller le ciel, mais c'est pas de là que j'arrive. Non, crois-moi, c'est pas de là que j'arrive. Hey, hey.
À mon avis, si ce corps se sait qu'on se rapproche de la vision. À mon avis, si ce corps se sait que ton amour c'est de la fiction. À mon avis, nouvelle pépite, nouvelle expa. Tous mes rêves vont traîner en ville avec un expa.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Qui a dit que ça devenait impossible de draguer en 2024 et même que ça commençait à bien faire? Quentin lui, oui c'est vrai, il a dit ça. Mais et non. C'est justement pour aider les hommes comme lui en quête de repères qu'on accueille à présent un coach en séduction qui va vous donner justement des petits tips pour conclure. Bonjour Fab Sex Alpha.
Bonjour, Malafa en devenir. Grâce à mes techniques d'abordage des femmes, j'ai sexé plus de 634 femmes cette année. Dis-moi, tu te sens tout seul quand tu descends en ville? Tu veux faire des rencontres d'amour ou juste faire Abonne-toi à ma chaîne Fab Sex Alpha. Quentin lui fait partie de mes abonnés. Donc n'hésite pas à souscrire à l'une de mes formations. Je répondrai à vos questions telles que: la femme, c'est quoi qu'elles aiment? Comment qu'on donne envie à une femme de nous embrasser? Le top 5 des parfums pour choper et dispo chez Action. Comment la suivre jusqu'à chez elle en étant sexy et mystérieux? Comment savoir si on a le zouzou qui goûte pas bon? Ou même, au fait, c'est quoi cette histoire de consentement? Tout d'abord, les femmes, elles sont cérébrales. Alors pour draguer, allez au musée et abordez des femmes et parlez fort comme si vous visitiez le musée avec des gens. À ma gauche, la plus belle œuvre du musée. Et quand elle se retourne et qu'elle voit qu'il n'y a personne, tu lui dis « Eh non, je parlais de toi, je plaisante. » T'aurais pas envie de manulinguer? Je préfère demander. Faut pas y avoir peur de dire des phrases trop crues à la femme, c'est important. Mon t-shirt « Salut la miss » est toujours en vente. Sur mon site, vous pouvez trouver des accessoires de séduction comme le bracelet en cuir, des boissons Yak & Jeez, des mugs « Je peux pas, j'ai sexe », un déguisement de Peaky Blinders ou une tondeuse pour bien faire ton collier de barbe et le sif. Et attention, bien dans ce sens, c'est important. Parce qu'il faut pas qu'on ait la barbe qui sente la litière quand on lui fait la bise à la miss. J'ai aussi ma formation « Comment bien y faire le sexe quand on est dedans ». Spoiler, faut y faire des ronds avec le zizi ou comme ça avec les doigts. C'est comme ça avec les doigts. Autre chose, n'oubliez pas de télécharger ma playlist Sexual Fab. Y a tous les tubes pour bien sexer. Calogero, la Soca Dance ou Sans Prépuce Gang, dont l'album sort bientôt. N'hésitez pas à chanter pendant que la femme... N'hésitez pas à chanter pendant, parce que la femme, elle aime aussi un homme qui a sa sensibilité. Ouais. Et la musique, pendant que vous êtes en train de bang, c'est important. Comme ça, elle n'entend pas vos bruits de sexeur en pleine digestion. C'est important. Surtout, on n'oublie pas que quand tu l'abordes, tu dois toujours te poser cette question. Comment lui faire comprendre que t'es un mâle alpha sans qu'elle s'en rende compte? Avec des phrases très anodines et tout en finesse. « Salut, tu viens d'où ? Toulouse, la ville rose, comme ma peau de zizi. Et t'y as été allé souvent ? Ou plus intimiste, t'es plus thé ou café ? Moi, j'aime les bubble tea et les coïts ininterrompus de 2 heures. Prends ma carte, voilà. J'espère que ces petits tips vous auront servi. Sexuellement vôtre, c'était Fab Sex Alpha.
Moi, je retiens la Socadène, surtout. Je l'intègre tout de suite à mes playlists. Merci beaucoup, Benjamin Tranier. Merci, Pauline Machado. Merci. Je rappelle votre livre Full Sentimental, comment la ville impacte l'amour. Merci à tous, les amis. On est un peu en retard. Quentin Louis, Cyril Lacarrière et même cet impoli de Manon Mariani qui ferait bien de relire le bouquin de Jacqueline Queneau, notre invitée sur les bonnes manières. Toujours répondre aux SMS de son producteur, surtout quand le mercato média approche. Tout le reste de l'équipe sait à quoi s'en tenir, n'est-ce pas Cléo Grisper, Fanny Léonard-Crouzé, Sylvie Boulou. À la technique, c'était Laurent Baudouin et à la réalisation, celui qui a très bien compris, lui, que le Mercato Média arrivait et qu'il avait une carte à jouer, puisque non seulement il brille à la réalisation, mais plus important encore, il apporte des cakes vanillés et du thé mariage frère dans l'open space. Avec moi, il n'en faut pas plus pour passer de remplaçant à titulaire. Bravo, Étienne Bertin. Demain, c'est le grand jour pour Manon. Grand jour pour Manon demain, puisqu'elle va rencontrer sa deuxième idole après François Civil, Jacques Pradel, avec qui on zoomera sur les progrès des sciences forensiques. En plus, le pire, c'est que c'est vrai. Alors, à demain, 16h. Et jusqu'ici, tout va bien. Marie Missé, Marine Bausson, bonsoir.
Bonsoir. Mathieu Noël, bonjour l'équipe. Aujourd'hui, on reçoit le réalisateur Nicolas Philibert.
Son film, La machine à écrire et autres sources de tracas, montre des soignants qui réparent des objets indispensables à des patients.
Et vous alors, Mathieu Noël, vous aussi, vous êtes un petit peu usé, mais indispensable?
Je suis un petit peu usé.
Oui,
je suis un petit peu usé.
Mais indispensable.
Mais indispensable, mais ça dépend à qui. Je ne sais pas qui je suis indispensable. Je suis plus usé qu'indispensable, hélas.
À nous.
À tout de suite.